Le paddock RMC, Jean-Luc Roy, Nicolas Paolorsi.
Le paddock RMC spécial débrief du Grand Prix d'Émilie-Romagne, 7e manche de la saison. Max Verstappen a éteint McLaren encore une fois. Verstappen a été impressionnant de solidité et franchement après cette course, on se demande si vraiment la possibilité d'aller chercher un titre de champion du monde n'est pas concrète, parce que malgré la supériorité affichée de McLaren, il est là le Max et il fait beaucoup de mal à ses principaux adversaires. Norris et Piastri ont dû se contenter des miettes sur le podium. Il s'est passé énormément de choses. Ferrari était au fond du seau samedi soir et comme souvent Ferrari est allé bien mieux le dimanche. Ça ne suffit pas pour marquer les esprits devant les tifosi. Ça a été plus compliqué pour Mercedes. Williams a encore une fois fait un week-end super et Isaac Hadjar a marqué des points. Voilà ça. Et puis on va parler de Colapinto quand même, hein, la première de Colapinto. Bon, c'est pas super bien passé. Le team principal du paddock RMC est là, from Miami, Jean-Luc Roy. Salut mon Jean-Luc.
Hello mon Nico, salut à tous.
Et les ingénieurs, il est rentré de vacances lui aussi, il prend des vacances pendant la saison. Non mais qu'est-ce que c'est que ça, Arnaud Valadon, salut mon Arnaud.
Il est libre Max, salut à tous.
Salut Arnaud.
C'est vrai qu'on pourrait la mettre de temps en temps.
Hervé Cristiani, hein.
Ouais. Et enfin notre homme qui fait le plus de promos sur le podcast là. L'homme sandwich du podcast. Louis Gerbier est avec nous. Salut,
salut
Louis.
Salut tout le monde.
Salut Louis. Alors
pour ceux qui te connaissent que via le paddock RMC, on rappelle que tu es le producteur des grandes gueules, des GG, et donc du coup il nous cale des promos paddock à chaque pub. C'est vraiment impressionnant. Il y a du teasing
télé
sur les
radio, hein, parce qu'il y a les deux. Hein.
Bah, on est vraiment, bien sûr.
On fait ce qu'on peut, on va y arriver les amis.
Allez, on y est déjà arrivé.
On y est déjà arrivé. Mais alors tiens, d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que quand même le podcast cartonne de plus en plus. Donc continuez à nous noter surtout sur toutes les plateformes de téléchargement. Ça c'est super important. Les notes, c'est sur 5 étoiles. Quelle note on donne les gars à ce Grand Prix d'Imola, sur le circuit d'Imola, Jean-Luc?
5,5.
Sur 5.
Oui, bah,
incroyable.
Non, mais là je vais pas la faire petit bras. Pour moi, il y a eu beaucoup de très bonnes choses. Allez, 4,5.
4,5, ouais, les gars.
Je vais expliquer.
Ouais.
Un peu dans la même veine, mais quand même seulement 4. Mais c'est vrai que pareil, il y avait plein de choses à voir. On pouvait s'intéresser, une petite safety car pour relancer le truc. Donc, 4.
Moi, je l'ai regardé en différé, un petit peu en live, mais pas très concentré. J'étais quand même plus autour de 3. C'était bien, mais on a eu.
Ah ouais, t'es dur.
On a eu de quoi pour avoir un super grand prix. Mais la virtuelle et la safety car n'ont pas forcément changé foncièrement la donne.
Oui. Il s'est passé plein de choses. Et c'est vrai qu'à Imola, des fois, il ne se passe pas grand-chose. Là, pour le coup, on a vécu des tas de trucs. Bon, on va se plonger dans ce Grand Prix, les gars. C'est parti pour ce débrief. On vous donne le classement de la course. Max Verstappen est allé chercher sa 65e victoire en Formule 1, la 3e de la saison et peut-être la plus maîtrisée. On va en parler tout à l'heure. Il s'impose devant Lando Norris qui avait un meilleur rythme que son coéquipier Oscar Piastri lors de ce Grand Prix. Piastri, du coup, complète le podium. Lewis Hamilton, la rimonta, je crois que ça se dit comme ça en italien, hein, termine 4e et va prendre 12 points devant Alex Albon sur sa Williams 5e. Williams qui encore une fois fait un week-end très solide. Charles Leclerc a fait partie un petit peu des piégés des safety cars, hein. On va revenir sur le scénario de cette course, mais il termine 6e. George Russell a souffert au volant de sa Mercedes, à l'image du rookie Kimi Antonelli qui courait à domicile et qui a dû abandonner. Russell termine seulement 7e. Carlos Sainz 8e. Isaac Hadjar, seul français dans les points, il va chercher 2 points, Isaac Hadjar, et il fait lui aussi une jolie course, termine devant Yuki Tsunoda qui a catapulté sa voiture un peu plus tôt dans le week-end et qui s'est fait très peur. Alonso est 11e alors que l'Aston Martin avait fait une super séance de qualification. Surprenant de les voir s'effondrer à ce point-là en course. Pierre Gasly qui s'était qualifié en Q3 est 13e. Colapinto pour sa première 16e, et ça a été un week-end à oublier pour Esteban Ocon qui n'a pas terminé la course. Voilà pour le classement. Au championnat du monde des pilotes, ça se resserre bien évidemment. Max Verstappen qui compte continue d'entretenir le suspense. Oscar Piastri est toujours leader, avait 146 points, c'est 13 points de plus que Lando Norris. Lando Norris qui devance son pote Max Verstappen de 9 points, 124 points pour Max Verstappen. Verstappen a donc seulement 22 points de retard sur Oscar Piastri. Derrière, l'écart se creuse avec George Russell qui est 4ème, 99 points. Leclerc qui a perdu du terrain reste 5ème. Et Isaac Hadjar avec ses deux petits points, hein, il a remonté Isaac Hadjar 14ème. Il a repassé devant Berman, Hülkenberg. Donc voilà pour Isaac Hadjar. Au classement des constructeurs, ça continue de se friser les moustaches pour McLaren, 279 points. Mercedes est la deuxième force du plateau cette saison, 147 points. Mais Red Bull recolle à 16 points de Mercedes et Ferrari qui prend 20 points sur ce week-end. Ça commence à quand même à tomber un peu du côté de Ferrari avec Hamilton et Leclerc qui se hausse de plus en plus, qui se hisse pardon, de plus en plus dans le top 5. 114 points pour la Scuderia Ferrari. Voilà pour toutes les infos chiffrées de ce week-end. Jean-Luc, bah déjà, tu nous disais que cette note était que cette course, tu l'as notée 4,5 parce qu'il s'est passé énormément de choses. C'est un Grand Prix où on a encore vu un Verstappen offensif dès le premier virage et une sublime manœuvre de Verstappen sur Piastri qui lui a permis derrière de s'imposer. Et il a su résister à tous les aléas de cette course aussi, Max Verstappen.
Bah, tout à fait, Nico. Alors pourquoi j'ai surnoté? Bah, déjà, je vous le dis tout de suite, il y a un demi-point de bonus parce que c'est peut-être le dernier Grand Prix à Imola. Et ça, pour moi, c'est un drame absolu. On en reparlera peut-être si on a du temps, Nico, en fin d'émission. Sûr. Mais je trouve que c'est un scandale, les pilotes l'ont dit. Donc je mets un demi-point de plus parce que le site est fabuleux, parce que les tifosi sont fabuleux, parce que c'est un moment chargé d'histoire de la Formule 1, parce que tous circuit. Les pilotes... Pardon ?
C'est un vrai circuit.
C'est un vrai circuit. Alors évidemment, on sort, bah oui, on détruit des caisses. Bah, c'est ça le sport automobile. Encore une fois, je suis le dernier à vouloir que les pilotes se fassent mal. D'ailleurs, ils se sortent indemnes de carcasses totalement détruites. Hein. On l'a vu, avec, ils sont tellement bien protégés et tant mieux aujourd'hui. Mais c'est ça, on fait une erreur, bah, on paye l'addition. Moi, ce qui me gonfle, c'est tous les circuits de Mickey. Pour moi, où effectivement, tu peux sortir à 300, il n'y a pas de problème, tu te récupères sur le goudron et tu reprends un peu plus loin, terminé. Je veux dire, tu l'as oublié deux tours après. Alors que là, bah, tu t'en rappelles. Bon, bah, c'est comme ça. Et puis, je te dis, l'ambiance que tout le monde loue, Hamilton, le premier, était quand même très ému de voir à quel point il était soutenu par les tifosi alors qu'il vient d'arriver. Enfin, même Verstappen, à l'arrivée, a remercié le public également de les soutenir comme ça, parce que les pilotes savent bien que maintenant, il n'y a plus que le pognon qui compte. Donc, voilà pourquoi le demi-point. Parce que le site fabuleux, parce que bah, là aussi, profitez bien de ces noms, hein, vous ne les prononcerez plus, Tamburello, la chicane Gilles Villeneuve, l'épingle de la Tossa, Piratella, Aqua Minerale et la variante Alta, Rivazza, c'est quand même mieux que T4, T5, T12, non ? Enfin bon, ouais. Voilà. Et puis après... Bah, si on compare avec le Grand Prix de l'année dernière, justement, où Verstappen s'est imposé en ayant signé la pole et a défendu comme une bête devant Norris, bah là, c'est pas pareil. Parce que malgré un tour de folie, et là aussi, il est nulle part le vendredi, ça commence à aller le samedi quand même, parce qu'il était vraiment sur les talons d'Oscar Piastri, et puis en course, bah, il fait un dépassement à la max, un dépassement incroyable. Alors bien sûr, bah après Piastri, il dit j'ai freiné un peu trop tôt, un peu à l'intérieur, mais c'est là aussi, vous pouvez revoir ça au ralenti 12 fois, c'est à passer dans toutes les écoles de pilotage de la Terre. C'est vraiment formidable. Il bloque à la fois Russell derrière, etc. Et il fait l'exter, ça passe au centimètre, c'est du grand art. Et puis après, bah justement, il y a, alors on reparlera aussi, là aussi, des, il va falloir mettre un petit générique, tu sais, comme pour les clowns, des décisions de la direction de course. Pourquoi, alors que les deux voitures s'arrêtent au même endroit? Je sais, il y a des explications fumeuses, mais quand c'est Ocon, ben on sort un virtuel safety car, ok, comme ça on garde à peu près les écarts, etc. Et puis au même endroit, quelques tours plus tard, ben on sort un safety car, comme ça on regroupe
alors,
tout le monde.
Alors j'ai lu une explication qui, moi, ouais, me semble quand même rationnelle, c'est qu'en fait, à cet endroit, entre le 7 et le 8, alors déjà, Antonelli s'arrête un chouïa plus loin, mais surtout, c'est que la place disponible pour stocker une voiture, elle était déjà prise par Ocon. Donc ça contraint les commissaires à augmenter entre guillemets le de passer de virtual safety car à safety car, parce qu'en fait la place qui était dévouée à une voiture pour stocker le temps de la fin du Grand Prix, en plus Imola, qui allait Jean-Luc, moi ça me semble quand même très petit, très ramassé, hein. On est pas, il y a la ville à côté, etc. Et donc en fait il y avait pas d'autre place pour stocker une deuxième voiture hors course.
Bah, ils ont bien réussi à la sortir, mais ils ont mis 14 minutes, c'est effarant. Dans le même temps, tu sais, juste après, je regardais les qualifs d'Indianapolis. Alors voilà une vraie course, les 500 miles. Quand tu vois comment interviennent les commissaires après des crashs absolument comme celui de McLaughlin qui a été démentiel, à quelle vitesse ils te remettent la piste en état, etc. Non, enfin on est dans un autre monde, hein, là. Et pourtant, en général, les commissaires italiens, ils sont plutôt actifs. Non, ce que tu dis est probablement vrai, pourquoi pas, mais ils auraient mis un peu plus de temps. Il y aurait eu le Virtual Safety Car un petit peu plus longtemps. Bon, enfin, on a voulu regrouper tout le monde. Je pense que c'était pour créer le spectacle sur la fin. Voilà, il faut le dire clairement. Hein. Mais enfin, bref, pour moi, ça reste un Grand Prix. Et puis, si vous comptez le nombre de dépassements, bah, la remontée de Piastri, même le dépassement des deux McLaren l'une sur l'autre, et on peut dire que ça a été vigoureux. Hein. Les dépassements de Charles Leclerc, les défenses de Charles, la remontée de Lewis. Non, il y en a eu. Enfin, pour moi, il y a eu beaucoup d'événements.
Il s'est passé beaucoup de choses. Je rappelle quand même, les gars, que c'est la quatrième victoire consécutive de Verstappen à Imola. C'est devenu son jardin.
Il y en a une qui a été interrompue. Il y avait des inondations, donc il a même pas pu faire 4 années de suite. Enfin, tu vois, ouais. Il aurait peut-être fait 5 même. Hein.
C'est vrai. Louis, Verstappen, il a encore réussi à éteindre McLaren à lui tout seul. On va juste l'écouter et après je te redonne la parole quand même, Max Verstappen, parce qu'il parle aussi des évolutions sur sa Red Bull qui lui ont fait du bien. Bien évidemment, c'est au micro de nos collègues de Canal+ qui diffusent le championnat.
I think we made a step forward with the setup this weekend.
Je crois que nous avons fait un pas en avant sur le setup ce week-end, les réglages. Ce week-end nous convenait mieux avec les virages rapides. Je ne veux pas m'avancer, mais c'est un week-end positif. Nous devons essayer d'en tirer le maximum à chaque fois. Et Monaco sera bien plus difficile pour nous, on le sait, les circuits en ville sont difficiles. Mais j'espère vraiment que ce que nous avons fait aujourd'hui pourra nous aider un peu plus là-bas. Voilà, Max Verstappen, Louis.
Nicolas, il y a eu un problème. C'était Franz Herrmann, c'était pas Max Verstappen qu'on a entendu. Alors, pour rappel, Franz Herrmann, c'était son pseudonyme quand il est allé faire des tours au Nürburgring.
Sur une Ferrari, en plus.
Voilà, sur une Ferrari. Et c'est parce que la vanne circule pas mal en disant pas mal ce Franz Herrmann.
Ouais, mais moi, j'aime bien ce petit pseudo. Ouais. Oui, exactement, qui a battu le record de 2 secondes, un truc comme ça. Non, mais en plus, il fait un temps monstrueux, je crois.
Alors, quelqu'un a dit, un pilote de DTM a dit, oui, mais il avait pas la bonne balance de performance, là, la BOP.
Et l'autre lui a répondu. Vous avez dit,
Moi j'aime bien Franz Herrmann, ça fait franchement pseudo, on valide.
Ça fait moins hollandais quand même. Hein.
Ouais, moins hollandais, mais on reste dans l'univers.
C'est un mix entre Hans Ralfrenzen et Schumacher, quoi, tu vois.
Il y a eu Hans Herrmann, vous le savez, qui a gagné Le Mans avec une Porsche qui était pilote.
Ah
Porsche.
Oui, c'est vrai, et t'as raison, hein, je l'avais pas du tout. Louis, ça va mieux pour Red Bull, et ça, Verstappen, il le confirme. Donc ça veut dire que la performance est de retour. En tout cas, on l'a senti moins en galère avec sa monoplace, et dès qu'il maîtrise un peu mieux sa voiture, on sait qu'il est capable de la pousser à 170-180%, mais quand la voiture marche, ça devient difficile de le battre, le Verstappen.
Ouais, il surprend même plus maintenant, en fait, on s'y attendait presque. Surtout maintenant que la Red Bull se rapproche de la McLaren, c'est que ça va être de plus en plus simple, entre guillemets, pour lui d'arriver à faire ce genre de performance. Et donc maintenant, clairement, au début d'année, on disait qu'il y avait un duel entre des coéquipiers, et puis en fait, le trouble fait va faire que ça va plutôt être un trio qui va se jouer le titre cette année. Et Arnaud le voyait en début de saison, il peut se passer la chose suivante, c'est-à-dire qu'un gars qui a la 3e ou 4e voiture au début de la saison finisse champion du monde. C'est une possibilité, ça serait quand même assez incroyable. Jean-Luc pourra nous dire si c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais ça me paraît fou. Sur la course d'hier, déjà sa qualif samedi... combien c'est, 34 millième je crois devant Piastri,
ouais,
donc ça reste vraiment un tout petit peu, mais tu vois Piastri n'a pas réussi à les attraper, ces 34 millième, et derrière il a peut-être un petit peu l'avantage, on va dire, d'un circuit européen, d'un circuit sinueux, d'un circuit étroit, où finalement hier il s'échappe assez vite. Et même les conditions de course, même ce que déplorait un peu Jean-Luc, de mettre une vraie safety car qui fait que tout le monde est regroupé, bon, on en reparlera peut-être, mais un peu plus tard, c'est un peu Piastri qui le sauve à ce moment-là. Je ne sais pas si c'est une décision d'équipe ou si c'est une décision personnelle d'ego de ne pas rentrer à ce moment-là. Ou de... Parce qu'en fait, il n'y a aucun intérêt pour McLaren équipe à faire repasser Piastri à ce moment-là devant Norris, puisque Norris a les pneus frais et il va être collé au diffuseur de Verstappen et potentiellement pouvoir jouer. Donc là aussi, il est encore une fois aidé par McLaren, qui est quand même son meilleur coéquipier à Verstappen, puisqu'ils arrivent quand même à manger la feuille très très régulièrement. Ouais, et lui, comme à l'inverse, il la mange jamais, il y a un truc de vase communicant qui fait qu'il est en train de tout bouffer là, et il est urgent de réagir pour McLaren, sinon la surprise va être très très mauvaise.
Il y a quand même eu de la maîtrise.
C'est sa victoire la plus maîtrisée. Ouais, bah, c'est ce que j'ai
largement. Largement. Parce là, c'est ça qui me fait dire que là,
s'il
faut s'inquiéter.
S'il n'y a pas la VSC, la safety car, il finit à 20 secondes devant en fait.
Ah ouais, non, mais c'est ça.
Du Max comme on a connu
du super Max dernière. Max super Max,
exactement, où là il s'envolait. Et c'est vrai que McLaren, c'est marrant, tu as ce sentiment que il donne le bâton pour se faire battre déjà. Exactement. En arrêtant Piastri méga tôt. Pourquoi on avait du mal un peu à comprendre,
en mettant
3 secondes 2, et en plus l'effet de course ne tombe pas de ton côté. C'est quoi ? C'est juste avant la safety car qui a l'arrêt McLaren de Norris.
Un tour avant.
Leclerc aussi se fait avoir. Bon, ça, c'est le lot d'une course. Hein. Mais il faut attendre qu'à Imola, même si ce n'est pas une sortie de piste, hein, c'est des casse moteurs ou des problèmes mécaniques pour Ocon et Antonelli. Ils n'ont même pas ces faits de course en leur faveur, alors que Max, c'était le sénateur. Hein. Il est tranquille, il a dominé, ça lui a en plus souri, parce qu'au final, tu peux te dire, même si la virtual safety car fait moins de dégâts sur les écarts, évidemment, puisqu'on est tous plafonnés, mais la safety car, le fait de resserrer tout le monde à même pas 15 tours de la fin, peut-être un peu plus, ça aurait pu jouer un tour à Max. Pas du tout, il a continué, ouais. Hop, il n'a pas eu le DRS, j'ai regardé les vitesses de pointe, il plafonnait à 310, alors que Hadjar et je crois Alonso ont monté à pas loin de 340 de vitesse de pointe pour leur voiture en ligne droite, lui était à 310 parce qu'il a jamais eu le DRS.
Ouais, ça c'est clair. Non, mais c'est une victoire vraiment maîtrisée. Jean-Luc, du coup, on va forcément comparer le week-end de McLaren à Verstappen, à celui de Verstappen. Ils ont été malheureux, les pilotes McLaren. Il y a eu des erreurs des pilotes, il y a eu des arrêts au stand un peu longs. Voilà, c'était pas un week-end maîtrisé pour McLaren. Il y a eu plusieurs mauvais choix et des circonstances malheureuses.
Bah exactement, c'est-à-dire qu'en fait, vous l'avez souligné tous les deux, hein, Louis et Arnaud, et tu le sais aussi bien sûr Nico, Verstappen il ne laisse rien traîner, et son ingénieur non plus, hein, Giampiero Lambiase, qui est toujours là avec son œil malin. Moi j'adore ce gars-là, parce qu'on sent qu'il y a une complicité, même si ça ressouille parfois au micro, mais c'est des malins, et ça j'aime bien. Chez McLaren, c'est un peu des bourrins, quoi, il faut être clair. Hein. Quand ils ont la meilleure voiture, qu'ils ont un boulevard d'avance, c'est que la stratégie est tellement évidente que même Pirelli arrive à la comprendre avant. Donc là, c'est formidable. Mais dès qu'il faut être un peu, un peu malin, c'est le mot. Ils le sont pas trop. Il y a pas de bon coup. Il y a pas de. Alors là, effectivement, on est confronté à une situation où on a bien compris qu'entre les deux pilotes, même si on se fait des grands sourires par devant, bah derrière, on grince un peu des dents. D'ailleurs, le dépassement de Norris sur Piastri en est l'illustration. Hein. On a bien compris qu'il n'y a pas eu de bonne volonté de la part du Piastri. On ne s'est juste pas accroché. Mais ça va peut-être venir, les gars. Hein. Il faut patienter un petit peu. Ça, je pense que ça va venir. Et là, on va utiliser un autre ton. Alors, rendons grâce aux dirigeants de Mercedes, de lapsus révélateur, de McLaren, de les laisser se battre. Parce que moi, j'aime toujours bien ça.
Let quand them on... race. Hein.
Exactement. Quand on laisse la bride sur le cou aux pilotes et qu'on leur dit ben, le meilleur est devant, etc. Après, le meilleur fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et on l'a précisé avec Piastri qui avait d'avant, évidemment, des pneus changés au 14e tour et Norris qui les a changés, on vient de le rappeler, au 29e. Et puis, la neutralisation du 47e où il y avait évidemment des pneus neufs pour Norris à ce moment-là, il n'y avait pas photo. Hein. Là, on peut juste se demander qu'effectivement, si on avait demandé à ce moment-là à Piastri de laisser passer tout de suite Norris pour le mettre juste derrière Verstappen, lui mettre une pression maxi avec des pneus récents, bah, peut-être qu'il y aurait eu un combat ou un écart moindre en tout cas. Bon, il n'aurait pas fait d'erreur, hein, mais il y avait un coup à tenter peut-être. Mais il fallait prendre, c'est vrai, une décision, on ne l'a pas prise. Alors, ce que vous soulignez aussi, c'est que, et d'ailleurs de manière maligne, Christian Horner, puisque c'est une guerre des mots également hein, entre les patrons d'écurie, Christian Horner a commencé à le souligner. Bah, on va voir ce qui va se passer la prochaine fois, puis surtout on va voir ce qui va se passer au premier accrochage entre les deux McLaren. Parce qu'à ce rythme-là, on va y arriver, hein, tôt ou tard.
Remarque,
peut-être à Monaco. Même.
Ce qui est bien, Jean-Luc, Nico et Louis, c'est que Christian Horner, il n'est pas embêté par les consignes d'écurie entre Verstappen et Tsunoda.
Pas trop, pas trop.
J'en avais, c'est le pire écart entre deux coéquipiers au niveau du pace, il y avait une seconde, alors que tout le monde est entre un dixième, deux dixièmes, trois dixièmes, entre son coéquipier. Hein. Les écarts, et voilà, Tsunoda... il est complètement largué. Hein.
Mmh. Bah là, il a réussi à aller chercher un point et c'est déjà bien payé, vu l'accident qu'il a eu en qualif. Il est parti dernier, on le rappelle, Yuki Tsunoda sur la grille. Lando Norris, les gars, on va l'écouter. Et puis, on va se pencher un petit peu derrière sur sa course parce que pour le coup, il avait du rythme, Lando Norris. Mais encore une fois, c'est le samedi qu'il a manqué peut-être sa chance. Personne n'avait fait plus que 12 ou 13 tours en essai libre. À partir de 14, 15 tours, tout le monde a commencé à avoir des problèmes de toute façon. Personne n'était préparé pour une course comme aujourd'hui. Il y avait beaucoup de dégradations, tout le monde aurait dû faire deux arrêts de toute façon. Même sans les voitures de sécurité, tout le monde aurait fini par s'arrêter deux fois, je pense. Donc c'est peut-être moins le cas pour moi et Max, car nous avons fait un long premier stint, un premier relais, mais les pneus étaient vraiment difficiles et ça a rendu la stratégie un peu plus amusante du coup. Voilà, Lando Norris qui souligne que c'est vrai que les équipes ont eu du mal aussi à comprendre la dégradation des pneus. Louis, Norris, il peut peut-être rester un peu sur sa fin parce que quand tu vois son rythme en course, il est meilleur que Piastri. En plus de ça, pour le coup, il s'en sort plutôt pas trop mal sur les faits de course, mais il rate son samedi, quoi, Norris, encore.
Oui, c'est pas parfait, mais je distingue un chouïa de mieux, je dirais, par rapport à à quelques semaines en arrière où on avait la sensation qu'il était au fond du saut, vraiment au fond de fond. Bon, là, il est toujours dans le saut, mais il remonte un petit peu, tu vois. C'est un peu comme ça que je le sens, puisque son dimanche, pour le coup, est vraiment propre, devant Piastri dans les temps. Il fait de beaux tours. À la fin, bon, les circonstances de course font qu'il termine devant, ça aurait peut-être pas été le cas, enfin bref, mais le dimanche est bien, le samedi c'est encore pas ça, parce que je pense que ces fameux petits dixièmes, centièmes que tu peux aller choper dans le deuxième tour de Q3, tu les chopes en pleine confiance, ou du moins il y a une corrélation avec la confiance, puisque c'est pas forcément le talent qui vient te les donner, mais c'est le truc,
la prise
de risque, le momentum, le truc, ce qui te permet d'aller prendre un risque un peu supérieur, c'est la confiance aussi, quoi. Tu te dis là, je peux le faire ou quoi. Si t'y crois pas complètement, si t'as pas tout à fait confiance en ton auto, c'est un peu plus compliqué. Mais il y a un certain progrès chez Lando et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de trio, c'est que ça pourrait être sympa déjà qu'il y ait un trio au lieu d'un duo pour la bataille, mais c'est que là aujourd'hui je le vois vraiment comme ça, là. Je vois vraiment les trois, entre l'un qui a une voiture inférieure qui fait pas d'erreur et les autres qui font qui font quelques erreurs de temps en temps, que tout ça s'équilibre et que du coup on ait un championnat très intéressant, et Norris je pense qu'en finalement il va pouvoir s'accrocher.
Est-ce que
il
va matcher. L'ami Piastri s'est pas fait landoniser, mec il part en pôle, ouais. Il perd la première place au premier virage,
c'est, voilà.
C'est vrai. C'est vrai qu'il a été un peu tendre, peut-être pour la première fois, Jean-Luc, Oscar Piastri, là, sur ce premier virage. Hein.
Est-ce qu'il n'est pas focus Russell, en fait ? Parce qu'il voit Russell qui semble presque devant Verstappen. Qui est, j'ai l'impression qu'il veut tellement défendre l'intérieur.
Il le bloque à l'intérieur.
C'est ce que tu disais, Jean-Luc. Et que là, Max, coucou, j'arrive. Et en plus, comme c'est une courbe intérieur-extérieur, et
C'est ça, ils ont beau être très... très très large, ces Formule 1, elles le sont de plus en plus. D'ailleurs, on doit réduire de 10 cm. Hein, normalement, on va gagner donc un peu de place. Parce que ce qui me fait aussi rigoler, vous me pardonnerez d'y revenir, mais c'est quand on dit la piste d'Imola est étroite. Les voitures sont tellement des éléphants maintenant, elles sont tellement grossies que forcément, ça tient plus de place. Bon, bref. Mais là, Piastri, pour rejoindre ce que vous disiez, ce que tu disais à l'instant, Arnaud, il a voulu bloquer la trajectoire à l'intérieur parce qu'il a vu effectivement que Russell arrivait comme un cheval bien bien lancé à l'aspi, donc il s'est dit oula, faut pas que je lui laisse la place à l'intérieur parce que là il va me le faire. Sauf qu'il a, non pas oublié, mais la voiture était pas assez large pour bloquer également Verstappen qui lui, du coup, s'est retrouvé sur la bonne trajectoire tout à fait à l'extérieur, là où il y a le plus d'adhérence, et c'est là qu'il a pu freiner plus tard et le contourner par l'extérieur. Non, non, c'était une très belle manœuvre à trois, entre bah, type extrêmement expérimenté. Non, non, c'est du, moi je trouve que c'est du beau. Ça c'est, de la, ça, c'est du sport automobile. Là aussi, on dit c'est juste, bah oui, mais la course automobile, ça a toujours été ça. Ça passe à un centimètre, ou parfois moins, mais le principal, c'est que ça passe. Donc, Piastri, il a été un peu tendre, c'était ta question, Nico, initial. Oui, il l'a reconnu, il a été un petit peu tendre. Maintenant, on part avec des freins qui sont malgré tout pas tout à fait en température, les pneumatiques également, et puis bon, ça tient tellement à peu de choses, là. En tout cas, Verstappen, lui, il fallait qu'il passe là. Voilà, bah, il l'a fait.
C'est ça.
Voilà. Et lui, il a fait ce qu'il fallait pour passer devant. Alors, on se rappelle hein, d'autres Grands Prix, des frictions, voire du fait que l'un ne laissait pas la place à l'autre, etc.
Bon, tu sais très bien que si c'était Max qui était premier, jamais il y a la place pour Piastri. Hein.
Ça, c'est clair. Bah, lui, il a une voiture qui est encore plus large. Elle fait 2,50 m. Donc, effectivement, il arrive à bloquer toutes les trajectoires à la fois.
Tiens, on l'écoute, Oscar Piastri, au micro de nos collègues de Canal.
Yeah, I think I just didn't brake late enough.
J'ai juste pas freiné suffisamment tard. Ça a été un beau mouvement, une belle manœuvre de Max. Je pensais que tout était sous contrôle. Mais c'est là que ça vous surprend. J'ai des choses à apprendre pour la prochaine fois, ça c'est sûr. Mais après ça, on n'avait pas vraiment le rythme aujourd'hui pour se battre pour la victoire. Donc, dans tous les cas, ça aurait été difficile pour nous. C'est vrai que ça faisait quelques temps, les gars, qu'on n'avait pas vu Piastri. On va pas dire en galère, mais en tout cas, se faire piéger comme ça sur un dépassement d'un concurrent direct, manquer de rythme aussi par rapport à Norris. Voilà, ça faisait quelques temps que on avait tellement l'habitude de le voir en maîtrise totale et un peu au-dessus de la mêlée que voir ça relance pas mal de trucs quoi quand même.
Est-ce que c'est pas aussi du fait que je crois que c'était seulement son deuxième Grand Prix à Imola parce que 23 il n'y a pas eu et c'est l'année vrai. Dernière Max et c'est quand même des circuits tu as besoin d'avoir une connaissance fine, c'est pas large, c'est tellement presque atypique et particulier, hein. Je pense que Jean-Luc, tu vas pas me contredire, parce qu'on voit très peu des circuits comme ça où bah, c'est le gravier et tu pars à la faute si t'es un peu trop large, et que peut-être que Max, qui voilà, s'est imposé pour le quatrième Grand Prix de suite à Imola, il sent beaucoup plus ce tracé, à toutes les subtilités de ce tracé, que Piastri, qui est encore un jeune pilote, hein, c'est seulement sa troisième saison en Formule 1, il est brillantissime, mais il apprend, c'est ce qu'il dit.
Est-ce qu'ils sont vraiment nuls les stratèges McLaren aussi, Jean-Luc là ? Moi, je veux que tu me répondes sur ça. Là.
Alors nuls, non, ils sont pas bons. Je te dis, ils sont pas malins, ils sont pas opportunistes, ils sont pas pétillants, ils sont pas capables de changer. Ils partent. Tu sais, ils me rappellent un peu à un moment les stratèges Mercedes. C'était comme ça. C'était la grosse machine. Hein. Dès qu'on sort un peu des clous, dès qu'il se passe un truc qui est pas prévu, oula, on sait pas réagir. Oui, alors j'allais utiliser une expression. Je sais que tout le monde va me tomber dessus, mais ça fait rien. Je dirais qu'Imola, c'est un circuit d'hommes. Pour reprendre évidemment le parallèle avec les tontons flingueurs que vous connaissez, j'espère.
La boisson d'homme.
Oui, la boisson d'homme. Voilà, bon, bah, c'est pour ça que je dis ça. Donc, effectivement, Imola, c'est un circuit, bah, on l'a dit, redit, un circuit à l'ancienne, un circuit étroit, un circuit sinueux, un circuit avec beaucoup de dénivelé, un circuit où la trajectoire est délicate et où, effectivement, dès qu'on met une roue dehors, bah, ça peut solder par des conséquences. Donc, effectivement, il faut être d'une précision diabolique. Alors, maintenant, Arnaud, oui, tu as raison, bien sûr, il aurait eu un Grand Prix de plus, ça, c'est l'expérience, hein, le capital expérience, même avec des jeunes gens de 23 à 24 ans, j'allais dire, elle arrive très vite, mais ça ne peut que servir. Et puis le simulateur ne fait pas tout. Hein. Le simulateur, c'est une chose, mais comme le disent les pilotes aussi, quand ils se retrouvent sur le terrain, eh bien, l'adhérence, la granulométrie, comme on dit parfois, du circuit, la teneur du revêtement, ça varie un tout petit peu. Et c'est ça qui fait la différence. C'est ça que... Pour un pilote qui le connaît, c'est le cas évidemment de Verstappen avec cette quatrième victoire de rang, tu le rappelais, peut-être malheureusement la dernière puisque les pilotes n'iront plus, eh bien c'est ça qui fait que Verstappen il est chez lui quoi, en un mot comme Émilie Romagne bien sûr.
Oui.
Ça y est, je l'ai fait. Oui. Allez, je m'arrête.
Je suis en train de regarder un peu les datas là, autour de la manœuvre de Verstappen sur Piastri, Louis.
Sur le freinage, ouais.
Ouais, il a quand même freiné 10 mètres plus tard qu'Oscar Piastri, quoi. Ça fait que t'as
ouais, sur la bonne trajectoire, ce que je disais, celle qui adhère avec la gomme.
Ouais, c'est énorme. C'est assez énorme. Louis, bah parlons de Ferrari. Désormais, avec un Lewis Hamilton qu'on a vu heureux à l'arrivée. Un samedi assez catastrophique une nouvelle fois avec Ferrari qui arrive même pas à mettre une voiture en Q3. T'es chez toi, t'es à Imola, t'es devant les tifosi.
Terrible.
Et franchement, c'est assez dramatique. Et par contre, comme d'habitude, le dimanche, il y a cette voiture un peu qui prend vie, mais les gars, ils partent de trop loin, quoi.
Ouais, et puis elle prend vie, petite vie, hein. C'est pas non plus, elle est pas sous nitroglycérine non plus le dimanche, mais le samedi catastrophique, j'ai ri jaune, mais en même temps beaucoup ri d'un tweet où quelqu'un avait repris le truc avec 11 et 12, puis avait gommé les deux chiffres pour faire comme s'ils étaient partis, comme s'ils partaient P1, P2, tu vois. Parce que c'est vraiment ça, quoi. C'est là où on les attendait cette année. Et puis finalement, ils te font des P11, P12. Et puis là, t'es dans ce fameux cercle vicieux qu'on a déjà connu pour d'autres écuries. Tu vois les pilotes qui sortent avec les yeux ahuris en mode mais. Je roule dans quoi? Comment je gère ça? Qu'est-ce que je dois faire là? Pourquoi la pédale de frein elle freine un coup sur deux? Pourquoi ça se passe comme ça? Et donc là, ça peut vite, très vite, tourner vinaigre. Et le dimanche, heureusement, tu vois, et le petit truc qui te donne de l'espoir en fait et qui te dit bon bah ils vont peut-être finir par y arriver et qui donne sûrement un peu d'espoir aux pilotes. Mais ça doit être très dur en ce moment pour toute la Scuderia parce que tu sens bien que ça va pas du tout et le des samedis comme ça te condamneront de la même manière qu'elle condamne un petit peu Norris en début de saison parce que le samedi il est un peu moins là. Même si t'es bon le dimanche, un mauvais samedi te condamnera toujours, quoi. Donc, ça va être très compliqué. Et pour le coup, quand je parlais de trio tout à l'heure, eux, c'est définitif ou presque. Ils y seront pas dans cette bataille en fait cette année, quoi.
Ah, ça, c'est clair qu'ils sont loin. Ça, c'est une certitude. Mais en fait, il y a quand même un énorme paradoxe. Hein. Je rappelle que Leclerc est 5e au championnat et Hamilton seulement 6e, 53 points pour Hamilton.
Ils sont 40 points de la deuxième place, je crois, chez les constructeurs en plus. Hein. À peu près.
Ils sont pas 114 pour la Scuderia, oui, 147 pour Mercedes.
Exactement, 33.
Mais c'est assez paradoxal 33. Parce que tu vois plein
de
trucs.
T'as vu qu'ils ont quand même Hamilton et Leclerc le deuxième et troisième meilleur rythme en course quand même.
Exactement. Hamilton très vite, mais c'est très paradoxal la Scuderia parce que c'est même pas des montagnes russes en fait. T'as l'impression un coup t'es à l'Himalaya, un coup c'est la fosse des Mariannes à moins 10 000 mètres, à 10 km sous le niveau de la mer. C'est là, tu arrives, tu sors d'un Grand Prix où t'as Lewis qui a un peu plus la banane parce qu'il a vécu plutôt un bon dimanche de P12 à P4 et t'as un Charles qui est toujours aussi dépressif. Hein. J'ai l'impression qu'il comprend pas. Et je pense
il commence à être frustré. Mais même Vasseur, là, tu sens qu'il commence à être frustré, Fred Vasseur. Hein. Ouais.
Et en plus, je pense que ce qu'il joue chez Charles, je regardais, il a 27 ans. Et il se dit, j'ai toujours pas un titre de champion du monde des pilotes en ligne de mire avec ses conditions de travail, avec cette voiture. Et je pense que ça, peut-être que tout est en train de rebooter. Parce que Lewis, même s'il n'est pas champion du monde chez Ferrari, il a fait sa carrière. C'est presque que du bonus, entre guillemets, même s'il y a un énorme challenge. Mais Charles, imagine, Charles Leclerc n'a aucun titre de champion du monde des pilotes. Là, si je vous pose la question aujourd'hui, vous me dites, c'est peut-être possible, en fait. Et ça serait quand même presque une ineptie. Ça serait une anomalie de l'histoire, quand même.
Ouais, c'est sûr. Lewis Hamilton, qui lui était en extase. Ce sont ses mots. Après sa quatrième place à Imola.
Oh man, I feel just ecstatic. So happy for.
Je suis vraiment je suis en extase.
The result, so happy for the team.
Je suis tellement heureux du résultat, tellement heureux pour l'équipe, tellement reconnaissant aussi. Comme je le disais, je n'ai dormi que 4 heures cette nuit, j'arrivais pas à dormir. Je ne faisais que réfléchir à la manière de progresser aujourd'hui. Quand je suis arrivé, c'était une super journée. Les tifosi m'ont donné tellement d'amour. Et c'est nouveau pour moi de les voir donner un tel soutien. C'est vraiment revigorant. L'équipe a fait un super travail aujourd'hui, notamment avec les arrêts au stand. La stratégie était vraiment en place, parfaite. Il mérite vraiment d'être félicité. Voilà, Lewis Hamilton. Alors, pour le coup, il a retrouvé un petit coup de peps. Hein,
en plus, Roscoe va mieux. Son chien, il était malade.
Bah,
dans
voilà, bah, si Roscoe va mieux, alors nickel.
Mais ça, sauvé, ça alors.
Je sais pas si vous êtes des amis des animaux et des bêtes, mais bon, quand t'as ton chien ou ton chat qui est malade, bah, t'as pas le moral.
C'est vrai. Non, mais complètement.
C'est vrai. Pourquoi tu rigoles, Jean-Luc? T'as pas de chien?
Non, mais je préfère me concentrer sur
moto,
le sport.
Mais plus, Jean-Luc.
Le sport automobile pour le moment.
On est là pour décrypter.
Alors, justement, bah, Lewis parlait de stratégie. Là, on a été impeccable. Et là, on a été parfait. Déjà, la question que je me suis posée au moment du départ, c'est comment on a fait, et c'était très bien, hein, d'en mettre un en médium, Charles Leclerc, et l'autre en dur, Hamilton. Ça aurait pu être l'inverse. Je ne sais pas comment la décision a été prise. Est-ce que c'est un choix des pilotes? Est-ce qu'on aurait pu partir également en dur pour Charles Leclerc ou pas? Ou est-ce qu'on n'a pas voulu mettre ses œufs dans le même panier? Ce qui est intelligent, hein. De toute façon, c'est bien vu. Mais ça aurait pu être l'inverse, on est bien d'accord. Du coup, on arrête Charles qui est dans le train de DRS et où il ne se passe plus rien au 11e tour. Donc ça y est, bah là, on a bien compris que tous ceux qui avaient été arrêtés tôt, c'était râpé. À l'inverse, Hamilton, qui lui a des pneumatiques dures, les fait vivre et donc remonte brillamment dans le classement à la faveur de l'arrêt de tous ses adversaires, paf, il profite du virtuel safety car et là du coup au 31e tour, il chausse des médiums et là il se retrouve également très bien là où Leclerc a des durs, lui il a des médiums au 31e tour qui l'emmènent pendant 16 tours exactement et au 47e on lui recolle, c'est parfait, c'est ce qu'il a dit, là pour le coup, stratégie absolument idéal, absolument adapté également aux événements de course, hein, au type de neutralisation, et ça lui donne le bon potentiel au bon moment. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, Charles lui ouvre largement la porte pour le laisser passer. Alors, juste, il faut rappeler quand même la raison pour laquelle Charles fait la gueule aussi. Bon, non seulement, évidemment, il termine loin, hein, il termine sixième et il y avait moyen de faire mieux, mais surtout, c'est qu'on lui demande de rendre la place à Albon à cause de la première attaque d'Albon où il réplique fermement, mais comme il le dit, vous allez me dire, oui, je sais, on a tous nos chouchous. Bah oui, moi, Charles, pour moi, c'est pas un pilote vicelard du tout. Bien sûr qu'il a été rugueux, bien sûr qu'il a été viril, mais une nouvelle fois, correct. Bien sûr qu'Albon a dit, ah, c'est pas faire. Bah, c'est le mot, c'est pas faire, c'est peut-être pas classe, mais on s'en fout. C'est du sport automobile. Et alors après, comme il y a une suspicion d'enquête peut-être des commissaires... Et d'ailleurs, c'est l'explication donnée par Fred, hein, Vasseur, après, y compris à Charles, en lui disant, on pensait qu'ils allaient te sanctionner, te coller 5 ou 10 secondes de pénalité, donc on a préféré te dire, rends la place à Albon. Mais Charles a dit, mais quoi, c'est encore du sport automobile, la Formule 1? C'est la vraie bonne question.
Jean-Luc, je pense que le fait d'avoir mis les médiums à Charles et les durs à Lewis en début de course, je pense que l'explication est simple, c'est que comme Charles partait devant, on lui met la gomme qui est censée lui donner un peu plus de rythme en début de course. Hamilton en dur va faire peut-être un petit peu bouchon et retenir tout le monde. Je pense qu'en fait, la raison est très simple en fait, sur le choix des pneus. Hein. Tu donnais peut-être, les pneus qui permettaient d'aller un peu plus vite à celui qui était déjà devant l'autre pour éviter...
Ce qui est dur dans la stratégie, c'est que quand ils arrêtent Leclerc avant tout le monde, là, ils arrivent à faire un joli undercut parce qu'ils passent Russell, ils passent devant les Williams aussi, Charles Leclerc. Derrière, il y a cette virtual safety car là qui vient tout anéantir. Mais sinon, voilà, c'était pas si mal de la part des stratèges Ferrari, notamment pour Leclerc. On va l'écouter, Charles Leclerc, au micro de Canal. Bah, bien évidemment, c'est pas le même enthousiasme que Lewis Hamilton.
Oh, c'est frustrant parce qu'on avait fait une bonne course, je pense, en général. Mais malheureusement, avec les deux safety cars, ils sont tombés au pire moment pour nous. Le deuxième, on n'a même pas pu le prendre parce que... Bon, on n'avait pas beaucoup de pneus disponibles, on n'avait qu'un des softs. Et en plus de ça, Lewis a décidé de s'arrêter au dernier moment. Et moi, vous savez pas trop combien de places j'allais perdre en faisant le double pit stop derrière Lewis. Je savais que j'allais perdre plus de temps, donc du coup, j'ai préféré pas prendre le risque, on s'est pas arrêté. Mais bon, à la fin, c'est comme ça, c'est décevant parce que au début, je pensais que tout allait plutôt dans mon sens. On avait un bon rythme, on avait fait une bonne perfo. Et après, malheureusement, avec les safety cars, on a perdu un peu notre réussite.
Tu sens que ça commence à peser, là, Louis, hein, sur Leclerc, hein, quand même. Ça commence vraiment à le travailler. On sait qu'il a l'habitude à chaud de pas être super optimiste à chaque fois qu'il n'est pas sur le podium ou qu'il ne gagne pas, parce que c'est un super champion et il veut gagner toutes les courses. Mais là, tu sens que il y a un gros sur la patate, quand même. Avant Monaco, en plus, chez lui, enfin, à Imola...
Là, la cote qui finisse pas la course à Monaco, elle est quand même élevée, hein.
Ouais. Mais oui, Charles, moi, ce qui, en fait, plus globalement, en fait, c'est que C'est aujourd'hui, tu vois, s'il arrêtait sa carrière et qu'il fallait me dire Charles Leclerc, c'était quoi ? Bah, c'était presque cette tête-là en interview, en fait. C'est-à-dire que ça fait trop de fois depuis trop longtemps que le pauvre, il arrive en interview et il se demande mais qu'il a bien pu faire dans cette galère, quoi. Tu vois, qu'est-ce qu'il fait là ?
C'est 26 pôles quand même, hein, faut le rappeler. Hein.
C'est mais ça évidemment, qui, ça et puis, ouais, ouais. Mais puis j'ai envie de dire encore heureux. Il a la Scuderia, il n'était pas non plus. Et je remets pas en cause lui. Hein, je me dis plutôt qu'il a jamais eu dans sa carrière, finalement, comme le disait Arnaud, une voiture qui pouvait faire quelque chose clairement au championnat plus que poil à gratter, quoi. C'est-à-dire vraiment être là tous les week-ends. Moi, j'ai pas vu.
Ah, c'est Ferrari depuis 20 ans, hein.
Ben oui, non mais c'est clair. Et
Alonso, c'était
et
pareil.
Et on pensait que Vettel, Alonso arriverait à leur gagner un championnat, que Vettel y arriverait. Et puis en fait, finalement, pour le moment, ça veut pas. Et il partira jamais, je pense. C'est tellement l'enfant Ferrari et tout. Donc
il a un contrat, hein. Tu sais, jusqu'en 2028.
Oui, il a un contrat imbattable.
Aussi,
hein. Ouais. Et donc tout ça fait que en fait. Sa seule issue, c'est que cette fichue voiture aille mieux, quoi. Et donc, d'attendre l'année prochaine. Et donc, je pense que entre la frustration qu'évoquait Arnaud d'une carrière qui finalement pas du tout à la hauteur du talent, plus encore là, on lui vendait le fait qu'on allait la jouer cette année, et puis en fait, faut encore attendre. Et là, cette fois, il a même l'impression de reculer, puisque
il y a
la
un grand voisin
dernière,
qui arrive aussi à côté. C'est
en,
pas
en plus.
Et fait du bruit.
L'année dernière, il avait quand même une voiture qui lui permettait de faire des choses, même si c'était pas aussi bien qu'on l'attendait, même si
là, cette année, pôles, il termine troisième. Hein,
exactement. Là, cette année, tu as la sensation que la voiture lui permet même pas de faire des coups. Et donc c'est encore un pas en arrière et lui il doit plus pouvoir voir le bout du tunnel, quoi. Et nous non plus.
C'est ce qui est terrible, c'est que comprends pas. Un coup c'est bien, un coup c'est pas bien. Je pense qu'il y a rien de pire. Si tu sais que ta voiture c'est un tracteur, bon, bah voilà, oui, ok, je suis dégoûté, mais c'est qu'un coup ça marche, un coup ça marche pas. Samedi on passe pas en Q3, mais le dimanche on peut se rapprocher du podium. Enfin c'est, je pense que ça tu
vous
donnes ma boule.
Je vous donne les positions à l'arrivée de Charles Leclerc là depuis le début de la saison. 8e en Australie, disqualification en Chine, 4e au Japon, 4e à Bahreïn, podium en Arabie Saoudite, 3e, 7e à Miami et 6e là du coup à Imola. Ouais, c'est compliqué hein, là pour.
C'est médiocre.
Ouais, c'est médiocre. Et à côté de ça, Jean-Luc, il y a Lewis Hamilton qui se fait son petit bain de foule là avec les tifosi. T'as vu, ça tranche quand même. Il fait une 4e place, il remonte 8 positions, Lewis Hamilton, mais tu restes quand même que 4e à Imola. Moi, tu vois, j'ai trouvé que ça, c'était un peu trop. Les scènes de liesse, même si c'est Hamilton, il est en fin de carrière, il est dans le kiff. Ok, mais tu fais pas non plus. C'est
tu
pas
pètes le champagne pour P4.
Non, mais voilà, c'est ça.
Bah oui, mais c'est la passion, hein, c'est la passion des tifosi, c'est le chaudron de d'Imola, c'est les collines rouges. Vous avez vu ça? C'est quand même absolument magnifique. Alors, bien sûr que c'est exagéré par rapport au résultat. Maintenant, bon, si on se met comme tu dis, il part 12, il finit 4, bah c'est un très beau Grand Prix. Il y a rien à dire, hein, avec une stratégie absolument impeccable et une monoplace qui a retrouvé vive. Vous le citez, là, c'est vous qui l'avez dit avant moi, mais son tour en course est excellent. Hein. Il fait un tour en 1.18 265 au 61e tour. Bah c'est, il est vraiment pas très très loin. Verstappen est le plus rapide, mais il est très très proche des McLaren, hein. D'une McLaren même, et il devance l'autre. Donc non, c'est plutôt très bien. Écoute, il y a de quoi se réjouir, parce que c'est lui qui faisait gravement la gueule, si vous vous souvenez, après le Grand Prix précédent. Après Miami, il était au fond du trou. Là, il était mais déprimé à ne plus en pouvoir. Ça va pas du tout. Les débuts sont... Il a dit partout, les débuts sont beaucoup plus difficiles que ce que je pouvais imaginer. Je sais pas comment on va en sortir. Bah, c'est une embellie, un petit peu. Alors, est-ce que c'est pas l'arbre, c'est un petit arbre qui cache la forêt d'Imola, mais j'allais dire, c'est un peu comme sa victoire en sprint en Chine. Finalement, ça lui a mis du baume au cœur et à tout le monde. On s'est dit, ah ben ça y est, ça va prendre, tiens, ça va bien se passer. Et puis bon, c'était une embellie très ponctuelle qui n'a pas été suivie d'effet. Alors maintenant, on n'est qu'au 7e Grand Prix. On le sait, Monaco, bah, je vais le ressortir, c'est un circuit pour pilote courageux, on va dire ça comme ça. Donc c'est un circuit où le
pas
pilote...
Pas de voir Colapinto à Monaco. Hein.
On peut prévoir des châssis. Je crois qu'il y a 4 ou 5 châssis qui font route vers Monaco, m'a-t-on dit, du côté de chez Alpine.
On va même les stocker à Beau Soleil à côté, il n'y a plus de place à Monaco.
Ils en mettent un dans chaque virage.
Jean-Luc, tu sais pourquoi il était vraiment content, Hamilton ? Moi, j'ai la vraie raison.
Parce que Roscoe est guéri.
Non, parce que c'est la première fois que Hamilton bat Leclerc en course.
Genre, bah oui, c'est vrai aussi.
Yes,
c'est vrai
bien
aussi.
Joué, ça, c'est vrai.
Et j'ai une autre petite stat parce que j'ai envie de vous régaler.
Ah, voilà.
Ça, c'est les tifosi qui vont pas être contents. Red Bull est plus victorieux que Ferrari au 21e siècle. 124 victoires pour Red Bull, 123 pour Ferrari.
C'était le 400e Grand Prix de Red Bull d'ailleurs.
Aussi.
Avec une belle victoire à la clé. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ouais, absolument.
Les gars, parlons un petit peu de Williams quand même, parce que ça commence à engranger sévère là, du côté de Williams. Alex Albon qui fait 5e, Carlos Sainz 8e. Deux voitures qui arrivent du coup ces dernières semaines à se hisser régulièrement en Q3 et qui surtout prennent des points en course. Louis, franchement, ça y est, on sent qu'il commence à y avoir un Carlos Sainz qui s'habitue à sa nouvelle monoplace, qui commence à prendre de vrais points, et puis Alex Albon qui est toujours aussi solide.
Ouais, clairement. Mais alors, justement, puisqu'on est dans les stats et la régalade, j'ai réalisé un truc. Ocon et Lance Stroll ont 3 points de plus au classement des pilotes que Carlos Sainz.
Ouais, c'est vrai.
Et
ouais,
dit comme ça, tu te dis, bah attends, c'est pas possible. Parce que
c'est vrai. Carlos.
Mais Sainz a très peu scoré. Hein.
Mais oui, il a fait pour mettre autant à côté. Parce que, quand même, tu vois, de l'autre côté, Albon, il a 40 points. Et j'ai pas l'impression qu'il soit à la rue par rapport à Albon. Tu vois, c'est pas la sensation que ça donne.
Ça fait 3 courses
qu'il
score. Il a pris un point en Chine, Sainz. Sinon, il a terminé 8e en Arabie Saoudite. 9e à Miami et 8e. Sinon, ouais, au bout de 4 Grands Prix, il n'avait qu'un point.
Mais c'est vrai que quand tu vois l'enfer dans lequel est Esteban Ocon et qu'il a mis 14 dans la banque. Et que Sainz est plutôt.
Donc 10 d'un coup hein, en Chine, voilà.
Évidemment,
c'est ça.
Mais
ou même Lance
plus...
Stroll qui reste sur 5 Grands Prix de suite hors des points.
C'était ça que je trouvais un peu surprenant, marrant pour Carlos Sainz. Mais c'est vrai que sinon, Williams, ça fait vachement plaisir parce que clairement, ils mettent les deux dans les points. Albon, c'est hyper solide. C'est pas la première course parce qu'on a déjà vu Williams faire deux Grands Prix par an et une belle course. Là, ça a l'air d'être quelque chose de plus ancré, quelque chose qui arrive tous les week-ends avec une structure qui ne fait plus jamais parler d'elle en négatif ou presque. Faut se rappeler les fins d'année Claire Williams où dès qu'on parlait de l'écurie au W, c'était un peu pour dire c'est n'importe
temps avec
quoi.
Avec ta line-up de pilotes, Latifi,
le line-up,
Sargent,
les budgets, la vétusté de l'entreprise à tous les niveaux. Je me rappellerai toujours de l'interview de James Wolff après son arrivée en tant que directeur de l'écurie, de dire qu'en fait, en venant de Mercedes, il a halluciné du retard sur plein de secteurs de l'écurie. Il a dit que ce retard, ça allait prendre du temps, que Dorrington, là, je ne sais jamais comment dire, qui est arrivé, lui qui a fait du bon boulot derrière.
Le groupe d'investisseurs.
Voilà, le groupe d'investisseurs.
Dorrington.
Et donc... on a l'impression que ça commence à porter ses fruits et on a hâte parce que leur line-up est beau et tout va bien en fait. Enfin, en fait, moi, ce que je trouve vraiment cool chez Williams, c'est quand une écurie bosse bien, ça finit par payer.
Il y a une morale.
Voilà, c'est ça. Il y a une justice. Comme quand tu bosses mal, t'es dans la panade. Suivez mon regard. Il regarde une écurie bleue et rose, par exemple. Et au moins, tu vois, il y a une justice. Williams, ça bosse. Quand ça bossait pas bien, quand rien n'allait, rien n'allait. Là, ils ont mis les choses en place. Ça prend du temps parce que l'inertie en Formule 1, c'est colossal. Mais là, ça commence à payer. Et je trouve ça cool et juste.
Et Louis, pour ajouter un mot, le paradoxe, et bon, c'est pas un pervers, hein, Carlos, mais il est 6e sur la grille, et Hamilton, qui l'a remplacé, qui lui a succédé Ferrari, est 12e. Il y a de quoi se marrer quand même.
Même si Hamilton a tout. Alors, je crois que j'ai vu la stat passer en qualif, je crois que c'est presque du 5-3 pour Sainz face à Hamilton. Par contre, en course, c'est 8-0.
Ouais. C'est clair.
Alors, pour Hamilton.
Pour abonder dans ton sens, Louis, à plein tube, quand on place les deux monoplaces comme ça sur la grille, vraiment bien, 6 et 7, et alors la différence de rendement en course, elle est très simple, on va y revenir. On arrête Carlos au 12e tour, ben, il faut bien l'arrêter. Il est parti en médium, on lui met les durs. Et puis du coup, on l'arrête à nouveau au 30e, on lui remet des durs. Et Alex, ben, lui, il est parti en médium, mais lui, on l'emmène au 30e tour. Donc, il bénéficie évidemment du VSC. Et ensuite, au 48e, il bénéficie. Et voilà, ben, la différence, c'est qu'il y en a un qui termine 5 et l'autre 8.
Ouais, ouais, c'est clair. Les gars, ça a été compliqué pour Mercedes par contre ce week-end, Arnaud. Peut-être d'ailleurs le premier week-end vraiment sans de la saison pour Mercedes.
Bah, c'est le premier week-end où tu prends même pas 10 points, parce que d'habitude, même quand tu as eu 0 point pour Antonelli à Bahreïn, tu avais fait deuxième avec Russell. Et voilà, abandon d'Antonelli, c'est le moteur visiblement. Et Russell, ils avaient des problèmes à l'arrière. Il n'arrêtait pas de se plaindre que ça bougeait systématiquement, même en ligne droite. Donc visiblement, il y a eu des températures assez élevées de la piste et à Imola ce week-end. Et visiblement, il y avait quand même des problèmes à gérer cela, en plus du, je sais pas si c'est un grand Big Bang, mais des problèmes de pneumatique. Hein, on a, voilà, Pirelli avait proposé presque les plus tendres et que beaucoup de gens, tu te rends compte, on a vu des pilotes en Q3 avec des médiums, tellement ça marchait bien.
Ouais, c'est presque les pneus de qualif, ça, hein, ça dure pas un tour. Hein. On a connu ça. Hein.
Et donc voilà, ça a pas payé. Après, tu sais, il y a beaucoup de... un coup ça va bien aller à un Grand Prix, un coup ça va pas aller. On a vu ça un peu avec Red Bull. À un moment, Max disait j'ai la pire voiture du monde, je vais jamais y arriver. Puis le week-end d'après, il te faisait une pole position.
Oui, c'est clair. Non, mais donc, la vérité d'Imola reste la vérité d'Imola. Hein. La semaine prochaine, tout peut changer. Surtout qu'on est sur un tracé complètement différent. Tu disais premier week-end où tu prends moins de 10 points depuis le début de saison, même premier week-end où tu fais moins bien que 18 points, puisque Mercedes avait au moins marqué 18 points à toutes les courses depuis le début de saison. Donc c'est vrai que. Et puis, dommage l'histoire pour Antonelli parce que vous avez vu quand même,
public,
il habite devant son public, devant ses copains de classe,
Mercedes. Il avait ramené toute sa classe.
Il va se prendre
des boulettes de papier à l'école ce matin. T'es nul.
J'espère au moins qu'il était juste devant là où il s'est arrêté, entre le virage 7 et 8. Hein.
Oui, c'est vrai. Non, mais c'est dommage parce que pour le coup, c'est indépendant de sa volonté. Il était tellement solide depuis le début de saison que ça ne se met pas en place chez lui. Et le storytelling était beau sur le papier.
Mais en tout cas, il peut regarder Charles Leclerc et se dire ok, ça peut arriver souvent chez soi que ça se passe mal et finir par gagner un jour quand même. Bon, lui, il n'y aura plus le Grand Prix, donc il va avoir du mal. Mais...
Et il est bien, ce gamin, parce qu'il a été super honnête aussi après. Hein, vous avez vu ce qu'il a déclaré. Il a dit, bah, c'est vrai, là, j'ai été confronté vraiment à la pression parce que c'était chez moi. J'ai vécu, j'ai été élevé à moins de 30 minutes du circuit et je n'ai pas pu assumer. D'ailleurs, il ne se qualifie que 13e. Hein, alors qu'il faut quand même rappeler, c'est la seule embellie de Mercedes, mais Russell est quand même 3e sur la grille. Donc là, il y a un gap absolument énorme. Donc évidemment, en partant d'aussi loin, Kimi, il sait très bien que... Alors après, en course, ça venait un peu, puis il a eu ce problème de commande des gaz, hein, apparemment, qui commençait d'ailleurs à se dérégler préalablement. Il a composé avec ça et qui a fini par l'éliminer. Bon, c'est dommage, mais comme il dit, il va rebondir avec ça. Ça fait partie de l'expérience, voilà.
Ouais. Tiens, je vous propose d'écouter Isaac Hadjar, le pilote français, le seul pilote français dans les points P9, Isaac Hadjar, et même peut-être quelques petits regrets parce qu'il allait vite ce week-end.
Ouais, encore une fois, le départ, on a eu du mal tout le week-end. Je sais à peu près ce qui est pas allé dans le bon sens. Après, le rythme il était bon. Stratégie, un arrêt, c'était intelligent, on a étendu et à un moment donné, on était cinquième. Puis ensuite, bien sûr, il ne fallait pas se battre avec les voitures qui allaient beaucoup plus vite pour ne pas perdre de temps. Et puis, je pense qu'on est en train de ramener une 7e place. Donc, c'est dommage la dernière safety car, mais c'était quand même une bonne course.
Ouais, bonne course pour Isaac Hadjar. C'est vrai qu'il n'a pas été un des grands gagnants de cette dernière safety car. On avait l'impression qu'en qualif, les gars, il aurait pu aller un petit peu plus vite. Il avait vraiment de la perf ce week-end. Il se qualifie 7e et là, pareil, en course. Finalement, cette 9e place, 9e, c'est, 9e. Presque un, 9e, pardon, c'est presque un moindre mal, cette 9e place.
J'ai presque envie de dire, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on l'entend, Isaac, il est toujours un peu déçu, il a tellement faim, mais bravo en fait, ça c'est bien. Tu t'enchaînes, tu marques, là je regardais, c'est un Grand Prix sur deux, il marque des points, mais il est là, et puis quand il n'en marque pas, il est souvent pas loin, donc voilà, faut pas oublier que voilà, il a une Racing Bulls en fait.
C'est peut-être la première fois que sa voiture valait vraiment le top 10, tu vois ce que je veux dire?
Oui, mais quand tu vois ce que fait Lawson à côté, moi, franchement, j'ai pas envie. Lui, il a toujours envie de plus, mais quand tu vois ce qu'il y a devant, Bah, je dis bah, bravo parce que t'en laisses aussi plein derrière. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment toujours envie de positiver quand je vois ses courses.
C'est son deuxième meilleur résultat en F1, Jean-Luc. En tout cas, il est régulier à Jarre, hein, on le dit. Mais quand tu regardes ses positions depuis le début de saison après cette course, alors bon, en Australie, on sait ce qui s'est passé. Mais sinon, derrière, c'est 11e en Chine, c'est 8e au Japon, son meilleur résultat. 13e à Bahreïn, 10e en Arabie Saoudite, 11e à Miami et 9e à Imola. Donc, il est ultra régulier.
Il fait du très bon boulot. Vraiment, je m'évertue à le dire, mais il faut pas le cramer. Tu sais, moi, je dis, on attend l'exploit, bien sûr. Bah, lui aussi, il attend l'exploit. Il aurait pu terminer 5, comme il disait, ou 7. 9, c'est bien. Bon, il part 9, il termine 9. Alors, et lui, avec une stratégie impeccable. Hein. Il l'a souligné, d'ailleurs. On l'arrête au 30e tour, on l'arrête au 47e. Donc, c'est absolument parfait. Il fait le boulot. Il met pas un pied en dehors de la ligne, c'est le cas de le dire. Il se comporte vachement bien quand il une voiture beaucoup plus rapide que la sienne qui est là. Non, il faut un petit peu plus de sérénité en qualif, peut-être, parce qu'on l'a vu, c'est rare aussi de voir un pilote taper sur le volant quand il se rate dans une courbe, vous l'avez vu comme moi, hein, dans la chicane Gilles Villeneuve, hop, il se rate, il surpilote un peu, et juste après, il tape sur le volant. Bon, on va évacuer ça, c'est encore des petites scories, il faut rester serein, et ça va venir. Forcément, l'exploit va venir. L'exploit, ce sera de faire dans le top 5, mais il peut le faire, la voiture peut le faire, et je pense que lui aussi.
Bon, faut qu'on parle d'Alpine, Louis. Bon, ça s'est mal goupillé pour Pierre Gasly. Franchement, qui tente un dépassement sur l'extérieur en course et qui va dans le bac à sable. Et derrière, il est trop loin alors qu'il était dans les 10 premiers à ce moment-là et qui fait un bon départ en plus, Pierre Gasly. Et puis, il y a la première de Colapinto. C'est pas un franc succès, notre ami Franco, là, sur celle-là.
Non, c'est-à-dire que.
Ou la belle bleue.
Ouais, on va pas rigoler, mais quand tu te places du côté de Douane qui s'est fait jeter comme un malpropre, tu te dis bon, ça lui a peut-être esquissé un sourire, tu vois, et encore oui. Que parce que bon, je pense que. Mais non, ouais, Colapinto. Bon, après, faut pas non plus. On verra. Comme disait le Julien Febvre sur Canal+, il dit Fabio Briatore lui avait demandé une chose, ne pas la casser. Bon.
Il va peut-être coûter plus cher en réparation qu'en sponsor argentin.
Non, non, parce qu'on se rappelle des débuts, géniaux de Colapinto
chez Williams. Et de
cette histoire d'amour qui s'est créée entre Nicolas Paolorsi et Colapinto.
mais j'aime bien le gars, voilà. Non, je dis pas que c'est un immense pilote,
Colapinto.
À chaque fois je te charrie, mais j'aime bien aussi Colapinto, mais on oublie, je sais pas si on oublie, mais faut aussi se rappeler que après il s'est mangé quelques gamelles, oui. Et que oui. Il peut vite coûter cher et comme par hasard, les pilotes qui ramènent des thunes, parfois j'ai l'impression qu'ils ont un peu moins de scrupules à la foutre dedans. et donc voilà, mais du côté de Pierre, tiens bon mon gars, tiens bon. Moi j'ai qu'une envie, c'est de lui faire un hug. Allez, bats-toi, vas-y. Parce que c'est long, c'est interminable. Il fait encore une super qualif, Q3. Ils essayent de sortir tard pour essayer. Bon, finalement, ils font 10e. C'est sûrement un peu le top que peut faire la voiture. Et puis derrière, alors toi, tu dis qu'il tente un dépassement sur Leclerc. Moi, j'avais l'impression que c'est Leclerc qui l'avait un peu dépassé et qu'il a un peu refusé. Enfin bref, c'est pas clair, mais en tout cas, quand t'es à cet endroit-là à l'extérieur, t'es pas bien, et ça s'est confirmé.
Il n'y a pas la place pour les deux.
Ouais. Et donc derrière, et ça lui coûte très très cher. Est-ce qu'il fallait pas lâcher 20 mètres avant et perdre qu'une place plutôt que 5? Mais
il l'a reconnu, hein.
Ouais, tu le sais qu'après. Peut-être que le fait que ça soit Leclerc, comme ils sont potes, peut-être que ça le fait jouer différemment. Peut-être qu'ils veulent absolument pas se toucher et qu'il va un peu trop au large. Peut-être qu'il aurait plus refermé sur l'autre pilote si c'était pas. J'en sais rien du tout. Hein.
Alors après, pour être un petit peu positif, c'est pas si catastrophique que ça. Alpine, il peut y avoir de la progression.
Oui. Mais
tu vois, t'es pas l'année dernière où t'arrives avec des kilos en trop, etc. T'es pas la pire voiture du plateau.
C'est quoi, c'est ta troisième saison ou deuxième? Troisième déjà, Pierre.
Pierre, non, trois. Hein.
Ouais.
Ah bah oui, trois.
Compte, depuis qu'il est sa troisième saison, enfin il est.
Non.
Et puis 23, 24, 25.
Ouais. Un petit mot, les gars, parce que là j'ai recherché et j'ai eu du mal. Hein. La saga Alpine, on va appeler ça comme ça, parce qu'il faut quand même rappeler que Renault avait racheté Lotus. Oui. Alors on y va dans l'ordre. Il y a un nom qui va peut-être vous surprendre parce qu'on l'avait tous oublié, moi le premier. Fred Vasseur est passé là.
Oui.
Fred Vasseur.
Quand j'avais fait l'équipe principale,
avec les.
Mais j'avais aucun souvenir de ça.
Eh ben ouais. Alors Fred Vasseur. Écoutez bien, Cyril Abitbol. Vous vous rappelez qui c'était?
Ah bah.
Of course. Marcine. The French accent of Cyril Abitbol. It is wonderful.
Et Marcine Butkowski, ça vous parle?
Ah oui.
Alors.
Otmar Szafnauer.
Bien sûr.
Bruno Famin.
Prononcez déjà. Bruno Famin. Oliver Hawkes. Alors on a David Sanchez. Et puis alors maintenant, alors ce qui est rigolo, c'est qu'on a voulu nommer Flavio, qui est donc executive advisor, mais de Luca Di Meo, attention, pas de n'importe qui. On a voulu le nommer team manager. Ah merde, il n'avait pas la licence. Ah, alors on a ressorti Dave Greenwood. Et puis on a Claron Pilmbid. Voilà, bah on fait Pilmbid, hein, je dis bien pas bid, bim. Et le pauvre Pierre, il est obligé de communiquer. Là, il me fait mal. Moi, je l'adore aussi. Hein. Il me fait pitié, il me fait mal. Non, tout va bien, rien n'a changé. Bon, ok. Eh ben, il faut y croire. Quand il baisse le casque, il ne pense plus à rien et il envoie du lourd.
Il
voilà.
roule. Ouais, il essaie de rouler. Ouais, mais c'est vrai que c'est compliqué. On a cru que les gars, on a cru que Fernando Alonso allait marquer des points ce week-end, peut-être, non?
Ah ouais. Mm. Ah bah oui. En partant 5, quand même, on l'a cru très fortement. Et puis là aussi, bah, on s'est pris les pieds dans le tapis. Hein. Pourtant, on l'a arrêté au 47e tour, mais auparavant, c'était au 13e.
Mais c'est fou, Jean-Luc, de voir l'Aston comme ça s'effondrer en course. Ils avaient ramené des évolutions. Ils terminent 11e, hein, Alonso, à 27 secondes de la tête de la course. Après la dernière
moi, le premier, après les qualifs, j'y ai cru, parce que Alonso 5 et Stroll 8. Je me suis dit, bon, c'est pas un hasard, c'est quasiment aussi bien que Williams, hein, qui prenait un sandwich, puisque 6 et 7 pour Williams. Ah ben voilà, pareil, je me suis dit, enfin, Fernando va marquer ses premiers points de la saison.
C'est un peu une énigme, ce qui se passe chez Aston. Hein.
Ah ouais, ben vous avez entendu également sa déclaration, hein, à la radio, dans le feu de l'action, « Je suis le pilote le plus malheureux de la Terre ». C'est du lourd, hein, quand même.
Il a quand même pas de bol, hein, quand il était chez McLaren, c'était le moteur Honda, qui était un véritable tracteur. Après, il était venu chez Renault, ça allait à peu près, mais c'est vrai qu'il est, il n'est pas forcément payé. Parce qu'Aston, tout le monde pensait que ça allait finir par cartonner, en fait, hein, avec tous les moyens, tous les ingénieurs qui se bousculaient, Lawrence Stroll à la baguette. C'est quand même très étonnant de voir cette équipe aujourd'hui dans les bas-fonds. Alors, est-ce que tout est mis sur 2026
voilà.
Enfin, je ne sais pas.
Voilà. Si 2026, ça ne marche pas, alors là, ça va être dramatique. Hein.
De toute façon, ça va être le cas pour beaucoup, ça, en fait. Ouais. C'est-à-dire que là, tu sens quand même qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans, beaucoup d'écuries, beaucoup de pilotes, qui tu veux, qui sont un peu en stand-by et que l'année prochaine va déterminer beaucoup de choses pour leur avenir. Parce que là, tout le monde attend un peu, voilà, c'est cette ambiance un peu étrange de fin de réglementation. Mais c'est sûr que si dans un an pile, c'est-à-dire après 6-7 Grands Prix l'année prochaine, Charles ou Alonso, ils sont pareils, ou tu vois, il faudra prendre des décisions. Je sais pas lesquelles, hein, mais.
Clair. Aston Martin qui est 7e et qui a 6 points de moins que Haas. Au championnat du monde, pour vous dire un petit peu. Ouais, c'est la bérésine. Hein. Les gars, merci beaucoup. Bon, Jean-Luc. C'était bien quand même ce Grand Prix à Imola. C'est vrai que ça va nous manquer.
Vous me faites plaisir. J'aime bien ça quand on termine sur une note optimiste. Bon, et je vous ai avoué qu'il y avait un demi-point à cause du fait que c'était Imola. Hein,
mais c'est ce que j'allais dire, c'est quand t'as donné, le nom des virages.
Ça, on a tous envie de le mettre en fait, parce que il se passe des choses, que ça soit même dans l'effervescence, tu la ressens même à la télé en fait, l'effervescence de voir que, tu vois, même le retour des motorhomes, les petits paddocks.
Un Grand Prix à 15h.
Un Grand Prix à 15h, enfin tu vois, toutes ces choses-là en fait, elles sont un peu ancrées en nous. Ça nous fait du bien quand ça revient en Europe, pas parce qu'on préfère à d'autres ou quoi, mais juste c'est un peu de nostalgie. Je sais même pas comment le dire, mais on se sent bien.
Et bah oui, Louis, et j'appuie encore plus fort dans ton sens, c'est de la vraie ambiance, de la vraie passion de sport automobile.
Voilà.
Tu vois, je vais faire un contre-exemple. Dans certains autres pays, je ne vais pas les nommer pour pas les insulter, mais je vais balayer. Même à Miami, c'est pas du tout la même ambiance. Si tu vois ce que je veux dire.
Ouais. Voilà, c'est clair.
Tout est dit.
Les gars, merci beaucoup. N'hésitez pas à partager le podcast et on se retrouve jeudi. Je vous rappelle que la F1 est dans un triple header et donc il y a une course la semaine prochaine. Ce sera à Monaco et donc bien évidemment le warm-up du paddock RMC pour présenter Monaco. C'est ce jeudi, donc à très vite.
Le plus beau samedi de l'année.
Ouais. Ciao. Le paddock RMC.